En fait, la part visible de mon entreprise, c'est la marque. Mais la part invisible, c'est tout ce qu'on fait en termes de recherche, de développement de procédés, de caractérisation. Et l'enjeu de tout ça, depuis le départ, était d'industrialiser nos territoires. Il y a 10 ans, moi, j'ai trouvé que c'était important qu'on anticipe les changements économiques et structurels de nos départements pour qu'on arrête d'être trop tributaire du tourisme et de l'agriculture.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Je suis ravie de vous présenter le 2e épisode d'une série d'entretiens consacrés à ces start-upers beauté que j'avais rencontrés pour certains à leur tout début. Comment leur marque a-t-elle évolué? Leurs valeurs se sont-elles renforcées? Quels sont les prochains défis à relever? Et qu'est-ce qui les fait vibrer? Aujourd'hui, j'accueille Shirley Bio, la fondatrice de Cadalis, l'une des toutes premières marques cosmétiques françaises à avoir misé sur l'upcycling. Depuis 10 ans, elle utilise les déchets bananiers et finance des études pointues prouvant scientifiquement leurs vertus cosmétiques. Mais aujourd'hui, Shirley voit encore plus grand. Pour info, vous pouvez retrouver la toute première interview de Shirley Bio sur le blog, c'était la numéro 22, et elle date du 27 juin 2018. Et maintenant, place à mon invité. Bonjour Shirley.
Bonjour Chantal.
Shirley, si je te dis upcycling.
Moi, je pense à mes bananes moches.
Alors, c'est quoi les bananes moches?
En fait, il y a 10 ans, je viens d'une famille d'activistes. Mes parents ont toujours été très impliqués dans des sujets environnementaux et aussi dans le monde du syndicalisme. J'ai des parents qui sont eux-mêmes très engagés. Nous, dans notre jardin, on est autosuffisants. On fait attention, on récupère les eaux de pluie, on a des grosses citernes. Après un cyclone, on peut vivre plusieurs semaines sans sortir.
D'accord.
Et donc moi, j'ai grandi dans cet état d'esprit de faire attention à ne pas gaspiller, de faire attention à ses ressources. Et il y a 10 ans, j'ai été très marquée par la grève de 2009 qu'on a eue pour la vie chère, et qui était la population qui souffrait de ce coût de la vie très cher, de ce coût des importations, de ce manque de perspective, d'horizon, de toute une catégorie de personnes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue de vivre dans ce monde en étant passif, en travaillant pour l'argent, sans donner de sens à ma vie? Ou est-ce que je fais quelque chose concrètement et je décide d'être actif et partie prenante du monde dans lequel je vis, pour moi, pour mes enfants, pour mon fils, pour les générations futures. Et j'ai pris la décision d'agir. Je ne voulais plus continuer de vivre comme un zombie ou comme un esclave de ces sociétés modernes où on est dans le métro boulot dodo et la consommation, le travail pour qu'on finalement dépenser. Ce cercle que je ne trouvais pas vertueux me posait un problème. Et donc, en fait, il se trouve que n'ayant pas de fortune personnelle, n'ayant pas de terre agricole, et je me suis dit, mais que de mieux que de travailler sur les déchets, en fait. Et ce projet est... Je dis encore projet. Cette société est née de rencontres. J'accompagnais ma mère qui interviewait le président de la filière banane, parce que ma mère avait une émission de télé assez orientée écologie et économie. Et il parlait de sujets, et notamment des déchets qu'il générait. 40 000 tonnes de bananes sont jetées chaque année en Martinique parce qu'elles sont moches ou toutes seules. Ah, moi, je les appelle les moches et les célibataires. Et je ne parle que des bananes, hein, vertes. Je ne parle pas des fleurs, des hampes et de tous ces déchets agricoles qui sont mis dans les ravines ou donnés aux animaux.
Okay.
Et on ne peut pas absorber tous ces déchets localement. Mmh. Et en fait, il se trouve, faut pas me demander pourquoi, à ce moment-là, je lisais des études scientifiques sur les vertus de la peau de la banane. Et en fait, finalement, dans cette interview, il m'interroge et me demande ce que je pense de ces échanges. Et moi, je lui dis, écoutez, ce que je trouve dommage, c'est que vous faites toujours que la même chose, de l'agriculture ou du tourisme. Mmh. Mais vous ne vendez rien de transformé. Et quand on sait ce qu'il y a dans une peau de banane, dans une banane, pourquoi vous ne transformez pas vos déchets? Et voilà, c'est parti de là, en fait. Et il m'a dit, reviens voir avec ton projet. Et je suis revenue le voir 3 semaines après avec mon idée folle. de valoriser les coproduits de la filière banane en ingrédients pour la beauté ou la nutrition.
Wow.
Voilà. Et en fait, pendant 10 ans, depuis 10 ans, on étudie tous ces déchets. On a caractérisé les corps gras et les parties aqueuses du bananier, le tronc, la feuille, la hampe, sur différentes variétés, avec différents principes d'extraction. Et on a analysé les bénéfices pour la peau. Là, on est à on fait notre deuxième thèse en biochimie, qui est très orientée pour le coût bénéfice peau-nutrition.
Ok.
Puisqu'on a déjà beaucoup caractérisé. Maintenant, on est passé sur cette phase-là. On a déjà déposé 3 brevets sur les vertus anti-âge du bananier, qui stimule le collagène et l'élastine, sur les vertus apaisantes du bananier, qui est d'ailleurs connu dans la médecine traditionnelle pour ses vertus réparatrices et cicatrisantes, et un brevet, et là c'est très étonnant, sur les vertus dépigmentantes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la médecine traditionnelle. Nous, on a découvert qu'on avait une activité sur les taches pigmentaires et l'unification du teint, en étant plus efficace que la vitamine C ou l'acide kojique.
Okay.
Et de ces déchets, on fait des actifs extrêmement puissants, parce que le nouvel actif qu'on a lancé autour de la banane rose, qui est un complexe huileux, on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à l'huile d'argan.
Ah oui, quand même.
Ce n'est pas juste un actif ludique.
Ouais, ouais, ouais.
C'est des vrais actifs qui sont objectivés et issus de la chimie verte.
D'accord. Waouh. Et alors, si je te dis chlordécone.
Chlordécone, c'est un sujet important pour nous, ultramarins. Important pour nous, aux Antilles. Mais qui devrait être aussi important pour les Français et les Européens. Parce qu'on oublie que ça a été utilisé sur des cultures de pommes de terre, par exemple.
Ah oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Alors, le chlordécone, c'est un produit phytosanitaire qui a été utilisé pendant plusieurs années, qui soi-disant permettait de nettoyer bien les sols, d'enlever les mauvaises herbes, et était sans effet sur la santé, ce qui était faux. En fait, puisque c'est un composé qui, d'une part, reste dans les sols pendant plusieurs années, plusieurs centaines d'années, et peut provoquer des effets sur la santé. Ce produit a été utilisé dans beaucoup de pays, notamment en France et en Europe. La particularité des Antilles françaises, c'est que ça a été utilisé dans la culture de la banane.
Ouais.
Et ce qui pose problème, en fait, c'est pas tant qu'il a été utilisé, parce qu'il ne faut pas être dupe, ça a été utilisé dans plusieurs pays. Et les gens ne disent rien, et je suis très étonnée d'ailleurs, que personne ne regarde les sols en France et en Europe, alors qu'il y en a. Et il y en a aussi pour 300 années. Hein.
Ouais,
c'est pas que les Antilles. Hein.
Ouais.
Mais en fait, il y a une espèce de focus qui est mis dans par les médias français. À chaque fois qu'on parle de chlordécone, on parle des Antilles. Mais c'est aussi parce que les Antillais se sont aussi révoltés.
C'est ça.
Ce qui est révoltant, c'est qu'à un moment où ça a été interdit dans le monde et en France, il y a eu des dérogations pour que les personnes qui importaient ce produit puissent finir d'écouler leur stock.
Évidemment.
C'est ça le problème.
Ouais.
Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est pourquoi nous, peuple des Antilles, on a continué d'autoriser finalement cet écoulement des stocks. Et c'est là où est le problème. Et je pense juste qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le scandale du chlordécone qui a existé dans beaucoup de pays. Il ne faut pas juste focaliser sur les Antilles et pas condamner nos territoires. Et le fait que ça a été utilisé pendant plusieurs années après la fin de l'utilisation officielle.
D'accord.
Ensuite, moi là, je suis assez sereine là-dessus parce que ma position est la suivante. Oui, il y a eu du chlordécone. Pas que, mais oui, il y a eu du chlordécone. Et que faisons-nous maintenant ? Devons-nous déménager, quitter l'île et la laisser pendant 300 ans sans personne ? Ou devons-nous faire avec et faire de ce scandale une force ? Ben voilà, moi, c'est ma politique. C'est de me dire, bon, ok, ça a été fait, mais la chance qu'il y a, c'est qu'il y a des variétés de plantes qui, en fait, n'absorbent pas ce produit, en fait.
D'accord.
Et il se trouve que les plantations de bananes, en fait, font comme un filtre naturel. Ça ne migre pas dans le bananier.
Ah oui.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça, je trouve que c'est plutôt un exemple, c'est que les endroits au monde, et notamment en France, où il y a eu le plus de tests sur les parcelles, c'est en Martinique et en Guadeloupe.
Okay.
Les parcelles sont très bien identifiées. Un planteur qui veut planter une plante, cultiver une plante, doit faire des prélèvements.
Okay.
Et en fonction de ces prélèvements, il peut planter du manioc, des tomates ou de la banane. Et la banane est justement une variété qui pousse sur ce chlordécone sans l'absorber.
Okay.
Et pour le coup, les planteurs font des tests, Mais nous aussi, on fait des tests qui ne sont même pas demandés en cosmétique, mais systématiquement, à chaque production d'actifs, on fait des tests.
Ouais.
Et il n'y en a pas, et on les publie sur nos réseaux sociaux en toute transparence.
D'accord.
Parce que c'est important que le consommateur soit informé en toute transparence. Et il n'y a aucun résidu de produits phytosanitaires ou de métaux lourds dans nos actifs. Ça, c'est important de le dire. Et il faut aussi saluer le travail remarquable de ces planteurs qui, quand même, malheureusement, ont été victimes de ce lobbying des grands laboratoires.
Ouais.
Parce que c'est surtout ça aussi.
Hein.
Et qui eux-mêmes, se sont rendus compte de beaucoup de choses et maintenant, plus que jamais, produisent proprement. Et il y a des planteurs qui font un travail remarquable, même de dépollution de leur sol. Et on travaille avec ces planteurs-là qui font ce travail remarquable. Donc, il ne faut pas tout condamner.
Bien sûr.
Il faut regarder avec un œil plus neutre et faire de ce scandale une force. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la force qu'on a, nous, aux Antilles, c'est qu'on ne se laisse plus faire. On fait attention aux produits qui sont utilisés. On est capable de se mobiliser, justement. Et cette pression sociale, sociétale, est un pouvoir que nous avons individuellement dans notre consommation. Et ça, je trouve ça incroyable parce que moi, je trouve notre population très forte. Mmh. Et je trouve que la population hexagonale, je la trouve moins engagée. Mmh. Voilà, donc je trouve qu'on a été très sensibilisés et ça nous a rendus profondément engagés sur ces sujets environnementaux.
Alors, si je te dis local.
Alors, local, c'est un sujet qui peut parfois m'agacer parce que ça dépend de quel point de vue on le prend. Moi, je suis ultramarine. Je suis française dans les Caraïbes. Je suis française dans les Amériques. Tout comme un Réunionnais est français sur son océan et sur sa zone, voilà. Proche de l'Afrique. Ouais. Tout comme un Polynésien ou un habitant de Nouvelle-Calédonie qui est proche de l'Australie et la Nouvelle-Zélande est français quelque part, mais avec un
à distance.
À distance. Mmh. Donc, le local, ça veut dire quoi au final ? Si on dit, moi, je vais consommer autour de chez moi. Moi, je voudrais sensibiliser les gens, en fait, sur cette histoire d'empreinte carbone. Alors aujourd'hui, si on ne veut pas condamner des populations à l'isolement, il y a un constat qui est assez simple. Nous, on est aux Antilles, on importe beaucoup de produits de France, parce qu'on est français, qu'on importe, on est très, très, très dépendant de la France.
Métropole.
Métropolitaine. Mmh. Donc, on importe. Donc, on fait venir des avions et des conteneurs de marchandises. Quand ils repartent, il faut qu'ils repartent avec quoi, à votre avis ? Avec quelque chose.
Ben oui.
Pour que, justement, ce cercle soit plus vertueux et que cette empreinte carbone soit, entre guillemets, rentabilisée quelque part. Ou, voilà, plus vertueuse. Ben, elle repart actuellement avec des bananes et avec du rhum. Parce qu'on ne produit pas grand-chose, en fait.
Ouais.
Voilà. Donc, la banane, qui est le premier employeur de nos îles privées, participe à ce cercle vertueux des importations qui nous les rendent plus tolérables. Sinon, ce serait intolérable en termes de coûts et qui les rend plus vertueuses en termes d'environnement. Donc, pour moi, quand on parle de local, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Parce que la France a une particularité et une singularité, c'est qu'elle a ses outre-mer, qu'elle est présente dans le monde entier. C'est ce qui lui donne sa force, puisque grâce à l'outre-mer, elle est dans tous les continents et dans tous les océans et qu'elle a un des plus grands empires maritimes du monde, grâce à l'outre-mer. Donc je dirais, s'il vous plaît, ne nous ghettoisez pas. Et quand vous avez des réflexions, intégrez l'outre-mer. Parce que nous sommes français au même titre que vous. Nous, on pense à vous, pensez à nous.
Parce qu'effectivement, je ne sais pas, moi, quand je pense huile de coco, certaines marques vont chercher leur huile de coco en Asie, par exemple,
oui.
Alors que, bon, on produit de la coco en Martinique
dans
les territoires.
Voilà.
Et on pourrait très bien développer une filière sans tomber dans la monoculture, hein, bien sûr, mais on pourrait, pourquoi pas, développer une filière d'huile de coco. Des dom-toms.
J'avoue que je suis un peu chauviniste, en fait, mais je me dis, il faut être chauvin quand même. On est français, on aime le Made in France et souvent, beaucoup de laboratoires ou de marques ont tendance à mettre en avant du sourcing dans des pays éloignés, en voie de développement ou qu'elle soutient des filières.
Ou alors très hexagonale.
Voilà. Moi, j'ai envie de leur dire, mais y a l'outre-mer.
C'est ça.
En fait, et vous soutiendrez des filières françaises qui sont en manque...
De débouchés,
d'accompagnement et de soutien. Donc, j'aurais envie de dire, pensez différemment.
Ouais.
Pensez local. penser français, mais français avec un grand F.
Ouais, c'est ça.
Pas le français avec le petit F du continent.
Ouais, pas hexagonal. Ouais, tout à fait. Si je te dis développement durable.
Alors, le développement durable est dans l'ADN de ma famille et de ma marque depuis le départ. Je pense qu'on était parmi les premiers à mettre en avant des engagements très forts en tant que marque et en tant, même au-delà de la marque, en tant que société. En fait, nous, nos piliers de société, c'est le recyclage de déchets qui fait partie des top 3 des solutions mondiales pour participer au changement climatique. On fait de la chimie verte quand on développe nos ingrédients.
Qu'est-ce que tu appelles chimie verte, justement ?
Alors, au-delà de la chimie verte même, on fait de l'éco-extraction. C'est-à-dire qu'on utilise des procédés d'extraction qui sont respectueux de l'environnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les actifs que nous faisons, très efficaces, on peut aussi les consommer en alimentaire parce qu'ils sont tellement green. En fait, c'est vraiment au-delà de la chimie verte qui est une chimie qui, normalement, préserve beaucoup plus l'environnement et fait attention à ses procédés. Nous, on est au-delà. En plus, on est sur de l'éco-extraction. Donc, on utilise des procédés qui sont, par exemple, des micro-ondes, des ultrasons qui ne vont pas polluer, pas faire de rejet. On n'utilise pas de solvants issus de la pétrochimie, en fait, par exemple. Et donc, le développement durable, enfin, mon point de vue à aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus possible de fermer les yeux et de voir qu'on est en plein changement climatique. Donc, le développement durable, c'est maintenant. Ça aurait déjà dû être hier.
C'est clair.
Ça fait 10 ans qu'on le fait. Et donc, ça doit être pris en compte comme un prérequis pour moi, pour chaque démarche d'entreprise. Donc, le développement durable, pour nous, c'est important, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour l'impact sur la société.
Bien sûr.
Nous, on a 100% des producteurs de bananes dans notre capitale. Pas juste 100%. On pousse des carrières féminines de jeunes femmes issues des Antilles. Et on est à notre deuxième doctorante en biochimie. On essaie de favoriser des carrières scientifiques de femmes de nos communautés.
Antillaises, ouais.
Voilà. Et ça, c'est aussi un impact social fort de la société et qu'on fait depuis 10 ans. Et donc on est à la fois... et c'est important parce que la formation des femmes, ça fait partie des top 10 des solutions changer aussi ce qui est en train d'arriver avec le climat. Donc, investir sur les femmes, investir sur la gestion des déchets, intégrer des planteurs, cette vision plus bienveillante du capitalisme participe aussi à diminuer les inégalités intergénérationnelles. Voilà.
C'est ça. Et je crois savoir que Cadalys va aussi devenir fournisseur d'ingrédients.
Alors oui, en fait, c'est mon grand rêve, mais qui est en train de se concrétiser, notamment grâce au soutien de la collectivité territoriale de Martinique, qui accompagne mon projet depuis quelques années. En fait, la part visible de mon entreprise, c'est la marque. Mais la part invisible, c'est tout ce qu'on fait en termes de recherche, de développement de procédés, de caractérisation. Et l'enjeu de tout ça, depuis le départ, était d'industrialiser nos territoires. Il y a 10 ans, moi, j'ai trouvé que c'était important qu'on anticipe les changements économiques et structurels de nos départements pour qu'on arrête d'être trop tributaire du tourisme et de l'agriculture.
Bien sûr.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec le Covid, finalement, il y a une prise de conscience de cette notion d'industrialiser nos territoires.
Eh oui.
Enfin, un territoire, et là, je parle de la France avec un grand F. Et il y a 10 ans, c'était une idée que je défendais et je pense qu'on devait me prendre pour une farfelue, en fait. Mais j'étais, à mon avis, très précurseur, donc incomprise.
Comme tous les précurseurs.
Voilà. Mais donc l'objectif de tout ça, c'est qu'en fait, on fasse un centre de transformation sur nos territoires et qu'on devienne fournisseur de matières premières pour l'industrie de la beauté, mais pas que, aussi de l'alimentation. En mettant en avant quoi ? Un savoir-faire, une traçabilité, une origine France et un sourcing durable. Et pour le coup, profondément compatible avec des exigences de RSE.
Ouais.
Parce que c'est une filière qui embauche autant d'hommes que de femmes, qui est exemplaire sur énormément de domaines. Pas besoin d'aller au bout du monde pour avoir un sourcing de bonne qualité.
C'est ça, exactement. Donc, il y aura création probablement d'une usine ou...
Oui, une unité de transformation dans moins de 2 ans.
Ah ouais, c'est demain quoi.
C'est demain.
Si je te dis invisibilité, inclusivité.
L'inclusivité, pour moi, étant caribéenne, étant extrêmement métissée, ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire, d'une part, accepter les gens tels qu'ils sont, sans les juger par rapport à l'apparence ou une culture. Moi, je viens d'une île où on est européen, africain, amérindien, asiatique. On vit tous ensemble depuis des siècles. On est une population jeune qui a été créée artificiellement.
Ouais, totalement.
Totalement, où on a souvent brisé les cultures originelles, où on a dû recréer notre culture. Et on vit tous ensemble en harmonie, malgré tout. Et en tout cas, moi, j'ai jamais eu de préoccupation de couleur de peau avant d'arriver en France. L'inclusivité, pour moi, c'est indépendamment de la culture et de son phénotype, sa couleur de peau. C'est aussi, en fait, dans ma société, une vision plus bienveillante du capitalisme. C'est pour ça que j'ai inclus les planteurs de bananes. Parce que je pense aujourd'hui qu'on est plus fort ensemble que seul. Et peut-être les erreurs qu'on fait depuis des années et plusieurs années, c'est d'avoir un capitalisme égocentré, uniquement orienté sur le profit. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait être plus bienveillant et qu'on a tout intérêt à partager, notamment avec ceux qui font la matière première. Parce que si on veut manger des produits de qualité, il faut une agriculture de qualité.
Et il faut les payer.
Et il faut les payer. Ces gens-là, il faut les soutenir. C'est hyper important. Et je pense que parfois, on a perdu le sens des choses. Et on a perdu des notions de base qui sont de l'équité, de l'éthique, des valeurs, du sens. Et nos priorités à aujourd'hui seraient de produire proprement, de redonner de la valeur à ces personnes qui font un travail remarquable, à ces métiers qui ont été dévalorisés longtemps. Parce que si on n'a pas eux, si on ne les a pas eux, pour manger correctement, on va devenir quoi en fait ? Et on peut très bien être extrêmement digitalisé, mais si les fondamentaux ne sont pas là, c'est dommage. Donc pour moi, l'inclusivité, c'est de la bienveillance, c'est de la tolérance, c'est une ouverture d'esprit, aussi bien entre nous les hommes que dans les entreprises. Voilà.
Et sinon, si on revient par exemple aux événements, aux manifestations antiracistes qui ont eu lieu au cours du mois de juin, etc., aux États-Unis et même partout dans le monde, toi, ça t'a touché,
Ça m'a touché énormément pour plusieurs raisons. D'abord, même si je suis métisse, issue d'un père blanc et d'une mère elle-même métisse, il n'en demeure pas moins que pour tout le monde. Je suis noire, en fait, au final. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est assez simple. On a 1% de sang noir, on est noir. C'est réglé.
Ça. Ouais.
Ça m'a touchée particulièrement parce que aux États-Unis, on a quand même une histoire qui est quand même similaire et commune. C'est-à-dire que nous sommes des populations issues de l'esclavage. Une histoire terriblement douloureuse où on s'est construit sur des racines très, très dures.
Ouais.
Et jusqu'à maintenant, on est, mine de rien, victime collatérale de ce drame, puisque nos populations sont toujours considérées comme inférieures, par beaucoup. On nous reproche parfois de ne pas avoir de passé, mais ce n'est pas de notre faute, sincèrement.
C'est ça.
Nous, on ne peut pas remonter loin dans notre hérédité. On est souvent issus, moi je dis souvent, c'est difficile parce que c'est des populations qui sont issues souvent d'ailleurs du viol, des maîtres et des esclaves, de l'agression, de la violence. Ça fait des populations un peu bipolaires parfois,
clairement.
Qui ont du mal à trouver leur place. Alors les États-Unis c'est terrible parce qu'ils ont eu ce que nous on n'a pas vécu, ils ont eu de la ségrégation, on n'a pas vécu ça. C'est quand même une chance. Ça me fait du mal de voir qu'en 2020... on puisse ne pas traiter tout le monde de la même façon. Personnellement, j'ai vu ma mère souffrir quand j'étais étudiante à Paris. Moi, je n'ai pas vécu ça avant parce que j'ai grandi entre l'Afrique et les Antilles. Je n'ai pas vécu ça avant. Et quand je suis arrivée en France, j'ai vu ça, en fait. J'ai vu ma mère pas se faire bien traiter dans les magasins. Ma mère étant une femme extrêmement digne et très, très activiste, qui ne s'est pas laissée faire. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un père qui a appris à ma mère à ne pas se laisser faire aussi et à connaître nos droits, à être éduqué, parce que mine de rien aussi, ça c'est important. Et donc, ça, parce que ça donne de la confiance
bien
en soi.
Sûr. Mmh.
Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et je comprends qu'il y a un mal-être, mais qui est global. Je pense que le mal-être d'aujourd'hui est global. C'est les minorités face aux majorités, enfin, majorités dominantes. Mmh. C'est aussi les dominés contre les dominants. Et je pense qu'on l'a vécu dans les mouvements pour la vie chère aux Antilles en 2009. Et on le voit aussi avec les gilets jaunes. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui se sent exclue d'un développement économique ou qui se sont exclus d'un système qui n'est pas forcément très équitable.
Ouais.
Je ne vais pas parler d'égalitaire parce que je pense qu'il n'y a pas d'égalité au fond. Mmh. Je vais parler d'équité. Et donc, il y a une souffrance de ces gens-là qui maintenant se réveillent. Et ce qui est génial aussi, c'est que les réseaux sociaux permettent une visibilité de ces inégalités et de ces injustices. Et je pense qu'on a, on prend conscience maintenant que nous, en tant qu'individus, on a une chance incroyable. On a un pouvoir incroyable.
Ouais, c'est sûr.
C'est le pouvoir de voter. C'est le pouvoir de consommer de façon stratégique. On a tous individuellement un pouvoir. Encore faut-il l'exploiter.
C'est ça.
Ça commence. Ça commence.
Ça commence.
Mais ce mouvement, je pense, est plus général. Et je trouve, ce que je trouve formidable, c'est que autour de ces mouvements qui sont partis des États-Unis, toutes les communautés se sont retrouvées aussi autour d'eux à les soutenir. Et c'est ça qui est important. C'est que ces changements-là, ils passent par tout le monde. C'est toute la population devrait s'offusquer de ce genre de situation. On n'a pas le droit de se faire tuer parce qu'on est noir.
Ouais.
Je veux dire, c'est inadmissible. Quand on voit ce qui se passe même dans certains pays en ce moment, dont je ne citerai pas le nom, où on sait très bien qu'en ce moment, il y a des gens qui sont maintenus en esclavage. Ça ne devrait plus... nos préoccupations devraient être des préoccupations de transmission, d'héritage et de protection de l'environnement.
Ouais.
On va laisser quoi aux générations futures? Ça devrait être nos priorités, pas ça. Et c'est triste qu'on en soit encore là maintenant. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations veulent de l'équité, exigeront plus que nous, on a exigé. Et c'est très bien.
C'est sûr. Et si je te dis futur?
Moi, je suis optimiste de nature, malgré tout. Et je pense que dans chaque épreuve, il y a des opportunités. Et si on prend le train, là, parce que là, en ce moment, c'est un train à grande vitesse, hein,
ouais,
qui est en train d'accélérer énormément de mutations. Si on le prend bien et qu'on décide d'améliorer, en fait, nos petites imperfections et qu'on redonne du sens à tout ça, je pense que... on peut en tirer quelque chose de positif. Et donc, en tout cas, me concernant, je continuerai de rester engagée. Je suis profondément convaincue que les changements qui s'opèrent et que vont dans la direction vers laquelle moi je vais déjà depuis des années, qui est principalement sur la bienveillance, le sens à ce qu'on fait. Et on peut faire du business, mais on peut le faire d'une façon plus éthique. Voilà. Mais donc, le futur pour Canalys, c'est... une expertise mondiale sur la banane, c'est une marque reconnue pour la qualité de ses produits et de ses engagements. Et c'est cette future usine, j'avoue, c'est quelque chose, j'ai tellement hâte de la voir sortir de terre, j'en serais tellement fière de pouvoir d'avoir été à l'origine d'un changement économique de mon île. J'en serais vraiment ravie. Si je peux apporter plus de richesse à mon département, j'en serais vraiment ravie.
C'est sûr. Et je crois que, on a parlé de ça tout à l'heure, tu as intégré un programme spécifique chez Google. Est-ce que tu veux en parler?
Alors, le programme Google, je l'ai découvert cet été grâce à une noire américaine qui s'appelle Vera, qui m'a envoyé ce message alors qu'on ne s'est jamais vu, mais parce qu'elle suit mes engagements sur LinkedIn. Elle m'a dit, Charlie, es-tu au courant de ce programme de Google? Est-ce que tu as prévu de candidater? Et moi, comme d'habitude, je me dis, je serai jamais prise. C'est parce que ça, c'est le côté... je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou parce qu'on part perdant
des fois.
Quand on est issu de la diversité. Et je me suis dit, pourquoi pas? Tiens, allez, je vais tenter. Il était 23h35, précisément. Il fallait répondre avant minuit.
Ah oui.
Donc, je me dis, bon, allez, moi, je crois beaucoup au destin. Et je me suis dit, bon, je vais le faire parce que je crois beaucoup aux rencontres et à ces petits signes invisibles. Et donc, j'ai rempli tout le dossier, qui était assez long. Et à la fin, je me rends compte qu'il fallait faire une vidéo de 2 minutes. Je me dis, oh mince, une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo super propre. Bon, mais tant pis, j'ai pris une veste et je me suis remaquillée. Et dans mon salon, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone portable en pleine nuit et j'ai envoyé le dossier. Et une semaine après, j'apprends que je suis dans les finalistes. Ils avaient choisi 20 projets parmi tous ceux qui avaient candidaté dans toute l'Europe. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai. et là, je me dis, bon, ok, allons-y. Donc, il y avait 3 entretiens à passer avec les équipes Google basées à Londres. Je les ai tous faits. J'ai parlé de mes engagements de marque, de ce qu'on faisait, de mon projet, etc. Et je m'étais dit, au départ, ils vont peut-être prendre un projet plutôt digital.
Oui.
Et en fait, pas du tout. Une semaine après... j'ai appris que je faisais partie de la cohorte de 12 personnes.
Wow.
Alors, d'autant plus flattée que quand j'ai vu les profils, je me suis dit, oh la vache, c'est du lourd.
Ça tape.
C'est du lourd. C'est des gens qui ont fait des parcours incroyables en Angleterre, qui ont fait Cambridge, Oxford, qui ont des PhD. Et donc, je suis la seule non anglophone, parce qu'en fait, sur les 12 projets, majoritairement masculins, 10 sont basés en Angleterre, une américaine à Amsterdam et moi. La seule française, mais la seule non native English du programme.
D'accord.
Et donc j'étais vraiment très contente. Et ce programme, en fait, qui est destiné aux entreprises fondées par des afro-descendants, c'est inédit parce que ce que je trouve intéressant dans les cultures anglo-saxonnes, c'est qu'on parle clairement des choses.
Ah ouais.
C'est un programme pour les Noirs. Parce qu'ils ont conscience qu'il y a plus de difficultés et c'est clairement affiché.
Ah, c'est vrai, hein.
Et c'est vrai, et c'est vrai. Et j'ai trouvé ça génial. Je pense qu'en France, on n'aurait pas les couilles de faire ça.
On n'aurait pas, comme tu dis, le cran, parce que
c'est tabou, en fait. On n'ose pas dire clairement les choses.
De toute façon, ici, il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc voilà.
Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'indépendamment du mentoring qu'on a sur plusieurs sujets, comme des sujets d'entrepreneuriat, comment manager, comment mettre en place des indicateurs, les outils Google, il y a chaque semaine des ateliers avec des Noirs américains, notamment qui sont chez Google, qui sont vice-présidents de Business Unit, et qui expliquent leur parcours en tant que Noirs.
D'accord. Des mentors. En fait.
Comme des mentors et des difficultés, comment ils se sont battus, comment on leur a laissé cette chance. Alors, aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'ils ont leur quota.
Exact.
On n'a pas de quota en France et en Europe, globalement. Et ce qui fait qu'on a quand même plus de parcours de réussite parce que ça favorise quand même la visibilité. Et c'est intéressant de pouvoir parler justement de nos problématiques en tant que personnes de couleur dans l'entrepreneuriat ou pour trouver des fonds.
Ouais.
Voilà, on est entre nous et on peut partager ça. Et je trouve ça à la fois très stimulant. Et d'avoir des exemples, c'est extrêmement enrichissant aussi. Voilà. Et ce côté black-oriented ne ghettoise pas, au contraire.
Oui.
Ça ouvre l'esprit et je trouve ça formidable que Google ait ouvert ça à l'Europe parce que l'Europe, par son passé colonialiste, a aussi toute une communauté d'afro-descendants, entrepreneurs, et je trouve ça génial, honnêtement.
Bon, ben... bravo.
Merci Chantal.
Merci Charlet.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.